Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour.
Claude, ce matin, les mots d'un survivant pour commencer.
Je ne me vois plus. Je ne me regarde pas comme la sorcière de Blanche-Neige pour me demander si je suis le plus beau ou le plus laid, mais pour savoir si je fais correctement mes exercices, si j'arrive à bien remonter la lèvre, si j'articule les syllabes comme il faut. Et quand je tombe sur des photos de moi avant, je sais bien que ce n'est plus moi. Je vois un étranger. Ces mots sont dans l'Obs qui interroge cet étranger et donc notre frère. Il s'appelle Philippe Lançon et sa vie est devenue un destin. Le 7 janvier 2015, les terroristes qui assassinaient ses amis de Charlie Hebdo lui ont arraché la mâchoire de leur balle. Après la fusillade, il voyait dans l'écran de son téléphone portable le reflet de son propre visage défiguré, comme par une main de peintre enfantin, écrit-il dans un livre qui s'appelle Le Lambeau. Le Lambeau comme ce lambeau de la peau de sa jambe qu'on lui avait greffé pour tenir lieu de menton. Lançon, on en parle souvent ici, est un des plus justes écrivains de notre presse et ses chroniques dans Charlie Hebdo en témoignent encore. Celle de cette semaine commence ainsi. Depuis la mort de mon père, je rêve parfois de son enterrement et de nouveau des morts du 7 janvier. Il arrive même que tout se mélange ou se relaie, comme si les seconds étaient d'autres pères dont j'attends un regard. On lira donc Lançon dans Charlie, on lira donc Lançon dans l'Obs et dans son livre la semaine prochaine. La seule interview indispensable aujourd'hui et le vrai livre à espérer, Philippe Lançon qui sera lundi avec nous, avec vous Léa, et nous entendrons alors qu'il est beau. Oui, qu'il est beau. Le journalisme n'est pas de la littérature, mais il autorise la beauté des mots, ainsi cela. Il dansait dans le petit matin au milieu des vignes. C'était un comédien, un pèlerin, un ludion, un feu follet, un astéroïde, un rapace, un renard du désert. Il tutoyait l'aube et vous voyez la nuit. Ainsi, dans l'Obs encore, Jérôme Garcin, tiens c'est lui qui déjà dialoguait avec Lançon, se souvient de Jacques Higelin. Le journalisme n'est pas de l'art, mais il peut nous le prêter. Dans Télérama, qui offre sa une à Higelin, comment faire autrement? On découvre un artiste barbu et doux. Il s'appelle Kader Attia. Ce plasticien a grandi à Garges, ville populaire où les portes d'appartements étaient décorées d'une sourate du Coran, d'une mezouza juive, d'un crucifix, d'un mantra ou d'un fétiche protecteur du Sri Lanka. Et de ces escaliers est née une passion pour les objets des autres et la fragilité des destins. Attia travaille sur les cicatrices visibles et la réparation. Il est dans Télérama, au Palais de Tokyo, au Magval de Vitry-sur-Seine. Ces images font écho aux mots de Philippe Lançon.
Tout autre chose, un mirage qui perd une bombe au-dessus du Loiret.
Et on est loin de la poésie ici, encore que il y a dans cette aventure, Léa, l'idée des dieux qui nous puniraient. Le ciel s'abat sur l'entreprise Faurecia. Titre et raconte ainsi sur deux pages la République du Centre. Faurecia, équipementier automobile, dont l'usine de Nogent-sur-Vernisson a été percutée de plein fouet par une ogive inerte, une bombe artificielle de 16 kilos. Hier après-midi, elle a défoncé le mur de l'usine et s'est encastrée dans un robot. Bilan 2 blessés, sans doute par la chute d'une armoire. Mais on ne sourit pas parce qu'il y a d'autres enjeux dans cette histoire qu'un dysfonctionnement technique de notre armée de l'air. Car Faurecia est une belle entreprise absurdement touchée. On le découvre dans la presse grâce à Internet. Elle venait de signer un contrat de 6 millions de sièges auto avec BMW. C'était dans les Échos le 28 mars. Elle venait le jour même de l'accident ce mardi 10 avril. On le découvre dans Auto Hebdo, d'où elle venait donc d'ouvrir un nouveau centre technique à Yokohama, au Japon. Et ce matin, on s'inquiète dans l'Est républicain. L'accident de Nogent-sur-Vernisson pourrait avoir des conséquences sur l'activité de Peugeot à Montbéliard, car c'est là-bas, à Nogent-sur-Vernisson, qu'on fabriquait les armatures, des sièges, des Peugeot 3008, dont les chaînes tournent pour l'instant à plein régime, pour l'instant.
Mmh. Des querelles politiques, pour finir.
Qui sont épuisantes et tragiques dans des pays moins heureux que le nôtre. Et le 1 raconte ce matin les présidents à vie. Elles sont chez nous, ces querelles, d'une banalité féroce. Et elles ont le visage apaisé de François Hollande dans l'Obs, dans la Dépêche, dans le Parisien, dans le Sud-Ouest, dans Libération. Mais demain, chez nous. Et pour le moment, la presse raconte les coulisses mesquines. Hollande charge Macron, le Figaro. Hollande règle ses comptes, le Parisien. Macron-Hollande détestation croisée, l'opinion. Ainsi, jouissons-nous des méchancetés des autres. L'ennemi de François Hollande, donc Emmanuel Macron, fait les unes du Figaro et de Libération qui poursuivent le débat sur la laïcité. Mais la croix est passée à autre chose et titre à sa une sur et contre l'euthanasie, une nouvelle offensive qu'a lancé hier le Conseil économique et social et environnemental en faveur du suicide assisté. Et on comprend alors que du point de vue de l'Église, les mots caressants d'Emmanuel Macron aux Bernardins ne comptent guère en regard des enjeux sociétaux réels. La croix retrouve son identité. C'est la force des journaux de savoir qui ils sont. C'est la force de l'humanité de parler aujourd'hui d'un journaliste américain enfermé depuis 37 ans, condamné pour un crime qu'il n'a sans doute pas commis. Il s'appelle Mumia Abul Jamal. Il est, lui aussi, un homme dont la vie est devenue un destin.